20 ans. C'est le temps que ça m'a pris pour répondre à une question. Comment je peux faire avec mon diabète de type 1 pour stabiliser mes glycémies et en même temps avoir la vie que j'ai envie d'avoir? Dans ce podcast, j'invite d'autres diabétiques de type 1. Je donne la parole à ceux qui nous entourent, ceux qui étudient le diabète ou qui le soignent. On partage nos expériences bien sûr, mais aussi des infos et des conseils pour vous aider à mieux comprendre, mieux gérer et mieux vivre le diabète. L'assurance, ça vous paraît peut-être compliqué, cher, inutile. Et bien sûr, voyager avec un diabète de type 1, c'est un peu plus compliqué que 100, et un peu plus dangereux aussi. S'imaginer à l'autre bout du monde avec son stock d'insuline volé, un accident, une blessure qui s'infecte, c'est pas les scénarios catastrophes qui manquent. Maintenant, imaginez qu'en cas de pépin, quelqu'un soit là pour vous rassurer, vous expliquer quoi faire pour que tout s'arrange, et aussi prendre en charge vos frais. Ben ça tombe bien, parce que c'est le métier de Chapka. Maintenant, comment ça marche pour les diabétiques? Pour une assurance emprunteur, le diabète peut être un motif de refus. Est-ce que c'est le cas pour une assurance voyage? Est-ce que les contrats sont plus chers pour les diabétiques? Et aussi, comment bien choisir le vôtre? Enfin, une fois sur place, qu'est-ce qui est pris en charge? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Toutes ces questions, ça peut rendre la perspective d'un voyage compliqué. Et aussi être une raison de plus pour ne pas se lancer. Et croyez-moi, celle-là, vous pourrez la rayer après avoir écouté cet épisode. Chapka, c'est le dernier assureur voyage auquel j'ai souscrit, et croyez-moi, je ne l'ai pas regretté. Alors j'ai invité Aurélie, qui est responsable social media et e-influence chez Chapka, à partager les réponses aux questions qui nous concernent dans ce podcast. Merci encore à toi Aurélie d'être venue nous éclairer et d'avoir peut-être permis d'enlever l'un des obstacles qui se trouve encore entre vous et votre prochain voyage. C'est parti, je vous laisse en compagnie d'Aurélie et moi. Que tu veux peut-être commencer par nous expliquer un petit peu ce que tu fais chez Chapka?
Oui, alors moi je suis en charge de l'animation des réseaux sociaux et des partenariats d'e-influence, notamment pour Chapka. Donc voilà, je travaille dans une équipe de 3 personnes au sein du service marketing. Et puis j'anime les réseaux sociaux, je réponds à notre communauté et je mets en place des partenariats pour... faire de la visibilité autour de nos assurances.
Ok. Et alors, quand tu parles de communauté, de visibilité, de réseaux sociaux, etc., en fait, vous êtes présent sur quelle plateforme, quels réseaux sociaux?
Oui, alors on est présent à peu près partout, principalement sur Facebook, Instagram et YouTube. On a également un compte Twitter, un compte LinkedIn, TikTok et Pinterest. Donc, on essaye d'être partout et de faire les choses bien. Mais il y a des réseaux sur lesquels on a... une fréquence de publication qui est plus importante que d'autres.
Ok, mais peut-être là où vont se trouver vos clients, où vont avoir des questions, vous allez pouvoir interagir avec eux.
Exactement, c'est beaucoup plus simple, par exemple, d'échanger directement sur Instagram, là où sur Pinterest, ils vont juste finalement être redirigés vers notre blog pour avoir des infos pratiques.
Ok, et du coup, pour remettre un petit peu ça en contexte aussi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Chapka, de l'assurance de manière générale, et puis bon, peut-être ensuite de l'assurance voyage, qui était moi, du coup, mon sujet de questionnement, de focus un peu plus spécifique pour aujourd'hui, mais voilà.
Oui, alors Chapka, c'est un courtier en assurance voyage, spécialiste de l'assurance voyage depuis 2002. Donc, nous, on est là pour vous défendre les voyageurs auprès des assureurs et surtout négocier les meilleures garanties pour nos contrats. Donc, c'est-à-dire qu'on va proposer des assurances adaptées à chaque voyage, qu'on parte en PVT, travailler à l'étranger, en stage, en tour du monde ou simplement en vacances. On va avoir des contrats spécifiques pour chaque voyage avec les meilleures garanties. Donc, ça veut dire qu'on travaille avec plusieurs assureurs qui nous ont aidés à créer les contrats. Donc, ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Et voilà, c'est de proposer des assurances voyage adaptées à chacun.
Ok, donc ce qui explique que pour ma part, quand j'ai eu quand j'ai eu besoin de faire appel à vous pendant que j'étais en voyage, parfois j'interagissais avec AXA et parfois avec vous, suivant du coup le sujet. Donc AXA étant la compagnie d'assurance et vous du coup le relais entre
oui, ça, entre exactement. AXA okay. est l'un de nos partenaires principaux. Europe Assistance est aussi un gros partenaire avec qui on travaille. Et c'est vrai que quand on a besoin d'une assistance, c'est avec eux que les voyageurs sont en lien, oui.
Ok. Et au final, tu vois, le sujet de l'assurance, que ce soit quand on voyage ou d'une manière générale, quand on n'est pas du tout familier avec cet environnement, ça peut paraître un peu laborieux, on peut se demander si ça vaut le coup, etc. Alors, quel serait, tu vois, le bon réflexe à avoir, ou je dirais à partir de quand on part en voyage d'une manière générale, il faut commencer à avoir le réflexe d'une assurance, ou en tout cas y penser et voilà, essayer vraiment se demander s'il faut le faire.
Ouais, bah, tu as raison. En fait, nous, on dit qu'il faut penser à l'assurance voyage dès qu'on pense voyage à l'étranger, notamment hors Europe. C'est un budget à prévoir dans son budget voyage ou vacances. Et nous, on dit toujours à nos clients que c'est vraiment une dépense non négligeable à prendre en compte. Alors, si on part 2 semaines au Mexique, ce ne sera pas le même tarif que si on part en tour du monde pendant un an, bien évidemment. Mais c'est vraiment. Je pense qu'il faut vraiment l'avoir en tête et au moins se renseigner, au moins connaître ce qui est pris en compte ou pas, regarder les garanties principales. On peut aussi penser être bien couvert par sa carte bancaire, notamment si elle est premium, ou même son assurance habitation. Alors, il faut faire attention parce que si on part au-delà de 3 mois, ça ne fonctionne plus, mais il faut aussi bien se renseigner et savoir ce sur quoi on veut partir. Voilà, si on a le réflexe assurance, on y pense, on sait qu'on part en voyage. Est-ce qu'on part avec une compagnie privée telle que Chapka Assurance? Ou est-ce qu'on part avec l'assurance proposée par notre carte bancaire? Bien regarder ce qui est couvert ou pas. La carte bancaire, les plafonds seront forcément moins élevés. Ce sera un peu plus laborieux pour obtenir un remboursement. Il y aura des franchises. Donc voilà, il faut bien tout prendre en compte. Comme par exemple quand on choisit son vol. Bah là, on choisit un peu son assurance voyage. C'est vraiment, voilà, on réserve son vol ou son billet de train, on réserve son logement et après, on regarde également pour l'assurance.
Ok, il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à la conduite d'un véhicule, la pratique de certains sports, la plongée, ce genre de choses. Ça, c'est des cas un petit peu spécifiques et qui sont couverts vraiment très différemment, je pense, d'une assurance à l'autre. Donc, c'est important d'anticiper la question, est-ce que les accidents, ça arrive?
Oui, exactement. Mais tu as totalement raison. C'est aussi hyper important si vous voulez prendre une assurance voyage avec un assureur privé de nous appeler en fait par téléphone et de poser toutes les questions à notre service client. Et par exemple, pour les sports, tu en parles. Donc c'est vrai que si on part sur un voyage au long cours, nous on couvre typiquement le surf, le kitesurf, la plongée jusqu'à 40 mètres. On couvre énormément de sports, excepté les compétitions. Donc c'est hyper important aussi parce que souvent, on se dit, bon, ça n'arrive qu'aux autres. Et puis, le jour où ça nous arrive, on est content d'avoir quelqu'un derrière nous quand même qui nous rembourse si on a des frais à débourser, etc. Donc, oui, et c'est hyper important de se renseigner aussi sur ce qui est couvert ou non, histoire de partir vraiment l'esprit serein, de savoir comment ça fonctionne si on a un pépin, de savoir, par exemple, si on veut, là, tu parlais d'une voiture, si on veut louer un scooter. Bah nous, on va couvrir jusqu'à 125 CC. Donc, c'est hyper important de connaître ça déjà.
Oui, et puis bon, je pense que le fait de dire que ça n'arrive qu'aux autres et que ça ne nous arrivera pas à nous, je pense que ça, c'est un réflexe qui est très, très ancré. Je pense qu'on est à peu près tous comme ça, c'est valable pour beaucoup de choses. Tu vois, moi, pour l'avoir vraiment vécu, je reviens depuis pas très longtemps de Bali, en fait, où j'ai passé toute la durée du Covid à peu près. Et
D'accord.
tu vois, sur un temps qui n'est pas très important et sur un nombre. Je dirais assez restreint de personnes, puisque l'île était un peu vide en temps de Covid. J'ai, moi, côtoyé plusieurs personnes qui ont eu des accidents et dont, bon, tu vois, j'avais un ami que j'ai forcé à prendre une assurance et heureusement,
D'accord.
et un mois après, tu vois, il a eu un accident. Ça lui a coûté 20 000 euros de frais d'hôpital
Ça
et
peut
du coup,
monter
bah,
très vite.
voilà, ça peut monter très vite, surtout à l'étranger, quand on a besoin d'être dans des hôpitaux où on parle, je dirais même pas français, mais à minima anglais, ça passe souvent dans une catégorie de frais qui sont beaucoup plus importants. Enfin, voilà, il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas. Et il y a aussi un truc que je trouve, moi, très, très chouette, bon, par rapport à Chapka, peut-être que d'autres assurances le proposent, mais en tout cas, c'est le fait de pouvoir commencer à s'abonner alors qu'on est déjà à l'étranger. Et ça, c'est hyper important parce que je pense que ça arrive à tout le monde aussi de partir et finalement de se dire après coup, bon, peut-être que je vais quand même prendre une assurance. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et ça arrive, et enfin moi en tout cas, j'ai beaucoup d'expérience de l'Asie, des accidents de scooter, ça arrive tout le temps, qu'on conduise bien ou moins bien, peu importe, ça arrive vraiment tout le temps. Et c'est des frais qui peuvent, voilà, qui peuvent monter très vite. Et par exemple, pour là, l'ami en particulier auquel je pense, qui venait juste de s'assurer. S'il ne pouvait pas débloquer les fonds pour se faire opérer, il n'avait probablement pas remarché. Donc, on parle vraiment
D'accord. Oui,
d'un
c'était très
truc
grave quand
très
même.
important.
Oui.
Ouais.
Oui.
Et alors, tu disais par exemple de ne pas hésiter à, ben, à appeler, à poser des questions pour bien choisir son assureur. Est-ce qu'il y a des outils aussi, des outils qui permettent justement de comparer, déjà de bien comprendre qu'est-ce qu'on entend par garantie sinistre, enfin vraiment de simplifier un peu tout ça et ensuite de se
Oui.
permettre de comparer.
En fait, nous, déjà, on essaye d'utiliser un lexique, entre guillemets, qui est compréhensible par tous. C'est-à-dire que sur notre site, déjà, on a une FAQ qui est vraiment très grande et qui reprend vraiment les questions principales qu'un voyageur peut se poser. Donc, déjà, nos garanties principales, elles sont à peu près les mêmes sur tous les contrats. Les plafonds vont dépendre, etc. Mais c'est surtout les frais médicaux. Donc, comme tu le disais, par exemple, en cas d'accident, on a un accident de scooter, on se met une entorse, etc. L'idée, c'est de pouvoir prendre en charge ces accidents. C'est aussi en cas de maladie soudaine. Voilà, on mange dans un petit resto de street food en Thaïlande, on ne digère pas bien, on a une intoxication alimentaire. Donc voilà, on va consulter le médecin. L'idée, c'est de pouvoir prendre en charge ces frais-là également. Aussi, on n'y pense pas forcément, mais c'est le retour anticipé. Si par exemple, l'un de nos proches décède en France, qu'on puisse pouvoir avoir un billet aller-retour qui nous permette de rentrer en France pour assister tout simplement à l'enterrement avec sa famille. Et puis quand on est prêt de repartir en voyage, il y a aussi une part de responsabilité civile. Voilà, on n'y pense pas trop, mais je sais pas, je vais prendre un exemple. On joue au foot avec son copain dans la rue et puis on casse la vitrine d'un barbier, d'un fleuriste, peu importe. Bon, bah là, on va prendre en charge en responsabilité civile les frais. Donc voilà, c'est tout un package de garanties, même la garantie bagage. Si on se fait agresser dans la rue et on se fait voler notre bagage, bah, l'idée c'est qu'on puisse également intervenir sur cette garantie-là. Donc voilà, on essaie vraiment de penser à toutes les garanties auxquelles les voyageurs pourraient avoir besoin. C'est ce qu'on explique clairement sur notre site web. Et pour en revenir, je pense à ta situation, c'est on couvre toutes les maladies accidentelles et qui arrivent comme ça sans qu'on s'y attende. Par contre, tous nos contrats vont exclure les maladies préexistantes ou chroniques, telles que le diabète ou l'asthme, tout comme les soins de confort, que ce soit les vaccins, les tests de dépistage, les tests PCR utiles pour voyager. Donc voilà, tout ça va être exclu. Donc c'est hyper important de le savoir. On l'indique clairement sur notre site web. Donc normalement, il n'y a aucune surprise. Et en termes de comparatif, pour savoir la meilleure assurance, je pense que le mieux, c'est vraiment d'aller sur chaque site web, de faire son devis, de regarder ce qui est couvert, d'appeler les services clients des assurances. Et pourquoi pas, on travaille aussi avec des partenaires qui proposent un énorme comparatif avec toutes les assurances voyage du marché. Donc, c'est très intéressant aussi d'aller le lire. En un simple coup d'œil, on arrive à voir ce qui est important pour nous et par qui c'est couvert. Donc voilà, je pense qu'il y a plein d'outils aujourd'hui pour vraiment faire son propre choix.
Oui, et puis je pense en effet ne pas hésiter à appeler, à essayer de trouver y a plein d'outils, essayer de trouver des outils qui nous parlent parce que
Oui.
au final, c'est pas si complexe que ça. Et en tout cas, ça, je pense que ça vaut le coup de faire un petit effort pour comprendre voilà, le vocabulaire de base, etc. Parce que voilà, les enjeux sont vraiment importants, donc je pense que ça vaut le coup. Et oui, du coup, sur le cas du diabète de type 1, qui est en effet un peu ce qui nous concerne aussi aujourd'hui, ça m'a posé beaucoup de questions avant de partir et quand j'avais envie de prendre une assurance, mais que je me demandais comment ça se passait du coup avec le diabète. Et je pense que quand tu dis en effet que donc les pathologies chroniques et le diabète de type 1, c'est des choses qui ne sont pas prises en charge, je pense que ce qu'il faut essayer de bien comprendre derrière ça, c'est que c'est tous les frais qui sont directement liés à la maladie chronique, qui sont les frais aussi qu'on peut avoir en France et qui sont d'ailleurs remboursés, donc pas par une assurance, mais donc par exemple par la sécurité sociale dans notre cas de figure. C'est bien ces frais-là, par exemple une consultation chez un diabétologue à l'étranger, une consultation chez un ophtalmo qui serait liée à notre diabète de type 1. C'est toute la partie des soins, voilà, chroniques du quotidien qui n'est pas.
Exactement. Exactement. Tous les soins qui vont être liés à la maladie, donc que ce soit le diabète ou l'asthme, ne seront pas pris en charge. Par contre, une personne diabétique peut totalement partir en voyage et être couverte par notre assurance pour toutes les autres garanties. Si cette personne a, comme je te disais, oui, une grippe, a une otite, elle doit rentrer en France parce qu'il y a un souci en France auprès de ses proches. tout fonctionnera, vraiment tout fonctionnera, excepté les soins liés à sa maladie chronique. Oui.
Et tout fonctionnera et le prix aussi reste le même. Je pense que, alors je ne sais pas si tout le monde a cette idée, mais moi j'avais un petit peu cette appréhension, comme ça peut être le cas aussi par exemple aux États-Unis, hein, où les compagnies d'assurance font varier le prix aussi en fonction de l'état de santé de départ. Bon, là, il faut aussi se dire que voilà, que ça ne sera pas le cas. C'est aussi logique à partir du moment où l'assurance va prendre en charge tout ce qui peut survenir de façon un peu accidentelle et aléatoire sur place. Du coup, ça n'a rien à voir avec le diabète ou pas le diabète, parce qu'on n'a pas plus de chances d'avoir une valise volée ou un accident parce qu'on est diabétique.
Exactement, c'est totalement ça. Le tarif ne change pas du tout, puisque des personnes diabétiques sont des personnes normales. Enfin, il y a aucun souci. Non, le tarif ne change pas du tout. Comme tu dis, elles ont autant de chances de se faire voler une valise que de trébucher, de se faire une entorse. Enfin, voilà, c'est vraiment tout le monde est au même niveau. Il y a aucun souci. Tous les voyageurs sont au même stade pour nous.
Oui, si ce n'est que bon, ça ne change rien en effet au niveau de l'assurance en tant que telle, mais moi je voudrais vraiment insister sur le fait que je pense que par contre en tant que diabétique de type 1, c'est encore plus important de s'assurer parce que y a un risque que je pense qu'on ne devrait pas prendre, qui est de se retrouver à être blessé et de ne pas pouvoir se soigner correctement, parce que si on ne peut pas se soigner correctement à ce moment-là, il y a des risques de surinfection, il y a des risques que beaucoup de choses se passent mal, et donc c'est hyper important de pouvoir être pris en charge dans un hôpital, notamment voilà, dans ce cas de figure précis où on serait blessé, on aura un accident ou autre, et ça pour moi c'est vraiment une raison supplémentaire de faire les démarches et de s'assurer. Donc, on a parlé un petit peu de tout ce qui était réfléchir à ce réflexe de se faire assurer, essayer de comprendre de quelle assurance on a besoin, trouver une interface, des sites internet, des comparateurs sur internet, un service client, etc. pour faire le bon choix. Ensuite, une fois qu'on est sur place, on a souscrit une assurance, on est en voyage. Si on prend le cas particulier de Chapka, imaginons qu'il arrive un pépin qui, si on n'est pas sûr que ça soit pris en charge, de toute façon, on peut toujours passer un coup de fil et s'en assurer. Mais bon, voilà, on part du principe où c'est quelque chose qui est pris en charge. Alors, ensuite, comment ça se passe?
Alors, ça va vraiment dépendre des contrats et de la durée du voyage. Par exemple, si on est sur un contrat court, donc ce sera des contrats sur des voyages de moins de 3 mois chez nous, il faudra, avant toute démarche, que ce soit aller consulter un médecin parce qu'on a mal au ventre ou se faire hospitaliser puisqu'on a eu un accident très grave, il faudra bien appeler le plateau d'assistance en amont pour les prévenir et pour qu'ils puissent... Alors, si vous êtes hospitalisé, prendre le relais immédiatement avec l'hôpital. Et si c'est juste, je suis en voyage moins de 3 mois, j'ai mal au ventre, je dois aller consulter un médecin, on les prévient, ils nous disent « Ok, nous, on va consulter le médecin de notre choix. » On fait les démarches une fois qu'on est rentré en France auprès de la Sécurité sociale, de notre mutuelle. Et dès qu'il y a soit un refus de prise en charge ou une prise en charge qui n'est pas complète, vous écrivez à Chapka, vous dites « Voilà, il m'est arrivé ce pépin. » Et puis, la mutuelle, il me reste, par exemple, 30 euros de reste à charge. Et puis, nous, on va compléter. Et par exemple, si vous êtes en voyage de plus de 3 mois, donc toutes les personnes qui vont notamment partir en tour du monde, notamment, là, vous avez mal au ventre, vous avez mal à la tête, vous allez consulter le médecin de votre choix. Le plus important, et ce qu'il faut vraiment bien savoir dans les voyages de longue durée, c'est qu'à chaque consultation, on va demander à ce que le médecin remplisse un questionnaire médical qu'on reçoit lors de sa souscription par mail. Comme ça, le médecin, il décrit les symptômes, il décrit la maladie. Potentiellement, il donne une ordonnance. Hop, une fois que vous rentrez chez vous, vous prenez en photo le questionnaire médical, la facture, puisqu'on demande l'avance de frais auprès du médecin, et l'éventuelle ordonnance. Vous vous connectez sur notre site web, vous faites votre demande de remboursement en 2 minutes top chrono. Et franchement, si le dossier est complet, en 48 heures, c'est traité, 2 jours, vous êtes remboursé. Ça peut aller hyper rapidement. Donc là, je parle bien des petits frais médicaux. Et par contre, si c'est beaucoup plus grave, un accident, là, c'est la même chose que sur les contrats courts. On va demander à ce que vous contactiez immédiatement l'assistance. Donc le numéro, pas de panique, hein, il est inscrit partout sur votre carte d'assuré, partout par mail. Vous ne pouvez pas le louper. Et puis voilà, vous leur dites que vous êtes hospitalisé plus de 24 heures et ils prennent en charge directement les frais en se mettant en lien avec l'hôpital. Et si malheureusement vous arrivez à l'hôpital en n'étant pas en mesure de contacter notre assistance parce que vous êtes inconscient. On demande à soit que vous le fassiez dès que vous êtes en mesure de le faire ou dès que vous êtes en mesure de demander à l'un de vos proches de s'en occuper.
Ok. Oui, donc au final, ça dépend à la fois de la durée de voyage, ça dépend aussi de l'état dans lequel on est. En effet, il ne faut pas se
C'est
dire que si
ça.
on a un accident grave, l'idée c'est que ça ne soit pas aussi une charge trop importante pour la personne qui est déjà dans une situation un peu
Voilà,
particulière.
c'est ça. L'idée, c'est vraiment de simplifier les démarches et notamment quand on est en tour du monde, voilà, c'est quand même hyper simple de se faire rembourser un petit frais. Ça prend vraiment allez, 5 minutes maximum pour demander le remboursement. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment que ce soit un process simple et surtout bah, que nous, derrière, on soit réactifs pour qu'on puisse rembourser les voyageurs au plus vite parce qu'on sait que l'argent, c'est très précieux quand on est en voyage.
Oui, c'est vrai aussi que le côté simplifié, enfin moi je peux vraiment le confirmer parce que alors bon, 5 minutes top chrono, ça nécessite qu'on ait sous la main tous nos documents sous un format digital scanné, mais
Oui,
ça c'est quelque chose qu'il faut
c'est
vraiment
vrai.
faire si quelqu'un pense à voyager et l'a pas fait, c'est vraiment hyper important de le faire et de les avoir quelque part de façon simple à
Exactement.
récupérer parce
Oui.
que c'est toujours au moment où on en a besoin qu'en général on est un petit peu dans l'urgence où on n'a pas forcément le
Oui,
temps
tu as
de bon.
raison.
Et à ce moment-là, oui, c'est vrai que c'est hyper simple. Il suffit de prendre une photo de qualité normale, bonne, voilà, la facture, le questionnaire, etc. On met tout en ligne et là, ça se fait vraiment très bien. Il n'y a pas de courrier à envoyer, il n'y a pas d'autres
Non.
voilà, démarches à faire. Après, s'il y a d'autres questions ou autres, bah, à ce moment-là, Chapka ou l'assureur peuvent nous contacter. Moi, ça a été le cas pour. Il y a eu quelques petites questions pour tel ou tel document. Je ne me souviens plus exactement des détails, mais enfin. Bon, voilà, c'est vraiment fait pour être le plus simple possible. Et voilà, à partir du moment où on a les instructions aussi de la part de Chapka de quel document on doit demander à l'interlocuteur médical de remplir et qu'on les transmet, après, c'est vrai que c'est très simple et aussi très rapide pour être remboursé. Et, ouais, ça, je peux le confirmer. Par contre, je ne sais pas comment ça se passe dans le cas où l'interlocuteur médical ne parle pas anglais.
Alors, il n'y a aucun souci. Il peut écrire dans la langue qu'il parle. Nous, ici, on a. En fait, les demandes de remboursement, elles sont traitées en interne. On a une équipe dédiée qui s'occupe de ça. C'est pour ça que ça nous permet d'être très réactifs. Si, par exemple, c'est écrit, vous êtes en Amérique du Sud, c'est écrit en portugais, il n'y a aucun souci. On arrivera à décrypter et à lire et à comprendre ce que le médecin a écrit.
Ok, ben ça c'est bon à savoir. Je le savais pas par ailleurs quand ça m'est arrivé, mais dans tous les cas, que ce soit les hôpitaux ou les médecins, surtout pour des étrangers, des gens qui voyagent, je pense que en tout cas quand c'est des interlocuteurs qui sont habitués à voir des étrangers, ils sont habitués à remplir ce genre de formulaire. Il y a pas de
Oui.
problème avec ça. Et bon après pour d'autres médecins qui sont pas habitués, ça bon, j'imagine que c'est au cas par cas, mais en tout cas voilà c'est quelque chose qui est connu. C'est pas un problème de demander des documents. Par ailleurs supplémentaire à remplir pour l'assurance, quoi.
Oui, les médecins ne rechignent jamais, c'est très simple, hein. C'est vraiment de mettre les symptômes, de mettre bah, la pathologie, c'est court, ça ne lui prend pas trop de temps et nous, ça nous permet de pouvoir étudier le remboursement, tout simplement.
J'interromps l'épisode quelques secondes pour vous dire que le podcast que vous êtes en train d'écouter est maintenant sur Tipeee, une plateforme sur laquelle vous pouvez soutenir vos créateurs de contenu préférés au moyen de dons ponctuels ou réguliers d'un euro minimum. Mais un don sur Tipeee, c'est beaucoup plus qu'une histoire d'argent. Car quand on diffuse un podcast, on a en fait assez peu de moyens de savoir qui vous êtes, vous, les auditeurs. Ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse. Lorsque vous faites un don sur Tipeee, vous pouvez y joindre un commentaire. Alors, si l'écoute de ces échanges avec les invités vous plaît, vous inspire ou vous aide, s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde en particulier, des invités que vous voudriez entendre, ou si vous voulez simplement m'encourager à continuer, et voir toujours plus de nouveaux épisodes arriver, alors c'est une bonne façon de me le faire savoir. Vous pouvez dès maintenant taper Tipeee dans votre moteur de recherche, T-I-P, puis trois fois la lettre E. Ensuite, rendez-vous sur la page Happy Diabetes et laissez-vous guider. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode, je vous remercie infiniment pour votre contribution, et je vous laisse reprendre l'épisode là où vous l'avez laissé. Je voudrais juste faire une petite parenthèse par rapport au Covid. Peut-être qu'il n'y a pas de spécificité particulière, en tout cas par rapport au diabète, mais d'une manière générale, je pense que ça a dû changer beaucoup de choses aussi, peut-être dans l'assurance. Qu'est-ce que ça a changé le Covid aujourd'hui? Comment c'est pris en compte?
Alors, le Covid, ça a tout bouleversé il y a 1 an et demi et aujourd'hui, nous l'avons ajouté dans tous nos contrats. C'est-à-dire que si, par exemple, on part en tour du monde et puis on va en Thaïlande et on attrape le Covid, nous, nos contrats vont prendre en charge déjà le test qui sera positif et puis tous les frais liés. Donc, que ce soit la consultation chez le médecin, les potentiels médicaments et même. Si c'est très grave, les frais d'hospitalisation, ce sera pris en charge par nos contrats. Néanmoins, le test PCR, souvent exigé par les autorités pour se rendre en voyage, ou même parfois pour changer de pays lorsqu'on est en tour du monde, ces frais sont considérés comme préventifs, donc ils ne seront pas pris en charge. Les tests PCR sont exclus de nos contrats, excepté s'ils s'avèrent positifs. Mais voilà, principalement, donc on prend en charge les frais liés au Covid et également notre contrat d'annulation a des garanties spéciales si on doit annuler parce qu'on contracte le Covid avant de voyager, par exemple. Faut pas essayer, pas hésiter à demander clairement ce qui est pris en charge par le Covid. Également, aller voir nos questions-réponses sur le site. Où on essaye d'être très clair sur ce sujet aussi.
Ok, ça marche. Tu vois d'autres choses qu'on pourrait préciser pour des personnes qui seraient diabétiques ou qui auraient des enfants diabétiques et à qui ça poserait quelques interrogations dans le cadre d'un voyage, par exemple
Je pense que c'est très clair que, comme tu le disais, c'est pas parce qu'on est diabétique qu'on ne peut pas voyager, et surtout, c'est encore plus important que toute autre personne d'être assurée s'il nous arrive un pépin. Vraiment, comme tu le disais, pour pas que ça s'aggrave ou que ça déclenche d'autres péripéties. Voilà, l'assurance, c'est hyper important à comprendre déjà, comprendre ce pourquoi on pourrait être assuré. Et voilà, et vraiment de le budgétiser dans son projet voyage. Je pense qu'on a tout mentionné. Voilà, la garantie frais médicaux, le retour anticipé, le rapatriement. La garantie bagage. Non, je pense que voilà. Il faut vraiment savoir que les frais liés à la maladie chronique ne seront pas pris en charge. Par contre, on aura droit vraiment à toutes les autres garanties du contrat, bien sûr.
Oui, la meilleure façon de s'en convaincre, c'est que bon, en cas d'accident, en cas de problème de santé, bien sûr, il y a une question de frais aussi. On peut se dire que ça va nous coûter de l'argent si on n'est pas assuré, c'est une chose. Mais il y a aussi certains cas de figure où cet argent ou ce budget, il est tout simplement trop important pour qu'on l'ait sur nous. On peut parler de 20 000 euros, de 100 000 euros pour une opération. Voilà, ça, c'est des choses qui, en effet, qui arrivent. Et donc, ça va
Oui.
bien au-delà d'un certain budget qu'on aurait pu se prévoir voilà, au cas où.
Oh oui.
Et on peut aussi se dire que peut-être, bon, voilà, par exemple, pour le cas de l'Asie, on est à 500 euros c'est le prix du billet d'avion d'un retour en France. Mais par exemple, moi, pour le cas de figure de mon ami qui a eu un accident de scooter, bon, j'ai eu un ami d'ailleurs qui a eu un accident de scooter la veille de quitter Bali et qui a dû se faire une petite opération au niveau de l'épaule. Et bah, résultat des courses, il
D'accord.
n'a pas pu prendre son vol
Oui.
qui était le lendemain. Il a dû payer 5 000 euros de sa poche puisqu'il n'était pas assuré à ce moment-là pour un accident de voiture qui
D'accord.
était
Aïe,
pas
aïe,
très
aïe.
de scooter qui était pas très très méchant au final et du coup et l'autre ami dont je parlais qui lui a eu des opérations un peu plus importantes et pour qui il était question de remarcher ou pas hein, s'il pouvait pas rapidement voilà se faire opérer à l'hôpital il ne pouvait pas physiquement prendre l'avion c'est-à-dire qu'il pouvait pas être en position assise et ça c'est aussi des choses qui peuvent arriver donc même si on se dit bon je prends un billet d'avion 500 euros je rentre et je me fais opérer soigner peu importe en France il peut aussi arriver que c'est pas possible bon voilà il y a vraiment plein de cas de figure auxquels on n'a pas envie de penser mais
Oui,
voilà, c'est très important.
tu as totalement raison de le mentionner. Typiquement, déjà, on ne se rend pas compte, mais encore, l'Asie, les frais, ils sont relativement bas. Quand on pense qu'au Canada ou aux États-Unis, une consultation aux urgences, c'est déjà 1 000 dollars. Juste une consultation aux urgences. C'est des frais qui sont énormes. Donc, qu'on aille au Canada, qu'on aille en Asie, c'est hyper important de s'assurer. Et comme tu dis, quand on a un accident très grave, au-delà voilà, de rembourser les frais d'hospitalisation, parfois on peut être hospitalisé et que les médecins, par exemple à Bali, et que les médecins jugent qu'il est mieux de rentrer en France pour se faire soigner. Donc quand j'entends les médecins du plateau d'assistance. Quand eux, ils jugent, oulala, non, là, il faut mieux que tu rentres en France pour te faire soigner. Nous, le plateau d'assistance prévoit un vol qui est parfois un vol médicalisé, comme tu le disais, quand on ne peut pas voyager assis, voilà, avec des lits spéciaux pour pouvoir retourner en France, se faire soigner en France. Donc ça, il faut le savoir, ça arrive. Et si on a eu un accident vraiment hyper grave, que on ne peut même pas être rapatrié, on ne peut même pas prendre l'avion parce qu'on... on n'en est pas en capacité, on prend en charge un billet aller-retour pour que l'un de vos proches vienne à vos côtés. Donc voilà, dans les situations très graves, c'est aussi important, comme tu le mentionnais, de savoir que c'est possible ou de rentrer se faire soigner en France sur les décisions du médecin, ou que l'un de nos proches vienne à nos côtés si on ne peut pas rentrer.
Ok. Eh bien, écoute, je pense que sur toutes les questions vraiment liées à l'assurance voyage en tant que telle, j'ai l'impression qu'on a pu clarifier pas mal de choses. J'espère en tout cas pour les personnes qui nous écouteront, parce que moi, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai eu envie d'avoir cet échange avec toi et à propos de Chapka. Alors, une petite parenthèse aussi par rapport à Chapka, pourquoi c'est auprès de vous que j'ai sollicité cet échange, c'est que on pense souvent à des assurances, à des assureurs qu'on peut connaître par ailleurs, parce que c'est des assureurs habitation, c'est pas forcément justement des entreprises comme Chapka. Moi, Chapka, je l'ai connu plutôt par bouche à oreille, puis ensuite moi-même en étant en contact avec des gens qui voyageaient pas mal, c'était un nom qui revenait très souvent. Et chez Chapka, j'ai trouvé un petit peu ça, à la fois le fait d'être assuré par rapport à d'autres personnes qui donnaient des témoignages plutôt positifs. Aux outils que je pouvais trouver sur Internet, à l'approche en termes de communication, etc. Donc du coup, pour cette partie vraiment très concentrée sur l'assurance, voilà, on a pas mal fait le tour. Et voilà, je voulais en profiter aussi, Aurélie, d'échanger avec toi aujourd'hui pour te poser quelques questions. Alors, je sais pas pour le coup si tu as si le diabète de type 1, c'est une maladie que tu connais particulièrement ou pas. Mais du coup, justement, dans l'hypothèse où tu en as un regard relativement extérieur, je trouvais ça intéressant d'échanger un petit peu avec toi, parce que ce soit moi ou je pense beaucoup d'autres diabétiques ou parents de diabétiques, quand on est vraiment très très proche d'un sujet, on finit parfois par oublier finalement quelle perception en ont les autres personnes de l'extérieur, quelles connaissances les autres en ont ou pas. Et parfois, je trouve ça intéressant de reprendre un petit peu de recul par rapport à ça. Toi, est-ce que tu as une... si on te dit là, diabète de type 1, quelle idée ça t'inspire? Qu'est-ce que ça t'inspire?
Alors, pour moi, c'est quand même assez flou. Même entre diabète de type 1, diabète de type 2, je ne saurais même pas quelle est la différence finalement. Voilà, le diabète, j'y pense notamment parce que j'ai connu une femme enceinte qui faisait du diabète gestationnel. Mm-hmm. Donc, c'est aussi comme ça que j'ai compris. Je la voyais se piquer, je la voyais faire très attention à tout ce qu'elle mangeait. Donc, moi, je le connais vraiment d'un point de vue extérieur et temporaire finalement. Après, voilà, ouais, c'est vraiment un sujet qui est assez flou pour moi encore aujourd'hui. Et j'ai personne vraiment de très proche qui en est atteint. Donc, je ne connais pas vraiment les enjeux. Ouais, c'est flou.
Donc, au final, diabète de type 1 et aussi diabète de type 2, au final, tu ne connais pas vraiment de personnes qui en sont atteintes l'un comme l'autre?
Non, je ne crois pas. Je savais que j'allais échanger avec toi. J'ai essayé de réfléchir et non, je ne crois pas.
Ok. Il y a à peu près 10% de la population qui est diabétique en France. Et en fait, parmi... donc là, on met vraiment tous les diabétiques dans ces plus ou moins 10%. Et en fait, parmi ces plus ou moins 10%, il y a une proportion qui, en France, est à peu près de 6-7%, à peu près de diabétiques de type 1. Donc, tu vois, sur okay. Une centaine de diabétiques, on va retrouver 6-7 diabétiques de type 1. Donc, c'est vraiment une toute petite partie, en fait, de ce qu'on appelle les diabétiques. Et je suppose que les personnes qui, de toute façon, nous écouteront sauront aussi de quoi on parle. Mais en fait, pour la petite histoire, moi, je me suis beaucoup posé la question de, en fait, pourquoi ces deux maladies portent le nom de diabète de type 1 et de type 2, alors qu'en fait, c'est des maladies qui sont vraiment très, très différentes dans leur origine, dans leur manifestation. Bon, ça, c'est une très, très grande parenthèse qu'on pourrait ouvrir, mais en tout cas, qui serait vraiment. Enfin, c'est vraiment hyper intéressant, en fait, l'histoire de la découverte de cette maladie et au final de sa compréhension qui est hyper liée aussi aux découvertes qui ont vraiment explosé autour de la compréhension du système immunitaire autour des années 50. Donc c'est quelque chose qui est assez récent. L'insuline, ça a été découvert dans les années 20 et donc tout ça, oui, voilà, finalement c'est relativement récent et en fait, ben, la différenciation entre type 1 et type 2, en fait, elle vient simplement d'une expérimentation qui a été mise en place pour essayer de comprendre le fonctionnement du diabète. Parce qu'en fait, le point commun qu'on rencontrait entre deux types de populations, un groupe qui avait plutôt une morphologie qu'on appelle parfois le diabète de type 1, le diabète maigre, par rapport au diabète gras qui est le diabète de type 2. Et en fait, à l'époque, on ne savait pas ce qui se passait à l'intérieur du corps de personnes qui étaient diabétiques. En fait, la seule chose qu'on observait, c'était des urines qui étaient sucrées. Et c'est de là que vient l'origine du mot diabète. Mais on voyait bien qu'il y avait vraiment de façon visible, deux groupes de populations différentes. Puis les uns étaient très jeunes et les autres étaient plus âgés, etc. Et en fait, en faisant une expérimentation, on a appelé le premier groupe le groupe 1, le deuxième groupe le groupe 2.
D'accord.
Et en fait, bah, du coup, c'est plus ou moins toujours resté. Enfin, à un moment, c'est une autre appellation qui a été plus utilisée. Et en fait, on est revenu à cette appellation-là quand on a fait d'autres études sur l'immunologie, justement dans la deuxième moitié du XXe siècle. Mais bon, voilà, donc juste pour information, le fait que ça soit un petit peu flou entre le diabète de type 2 et le diabète de type 1, je pense que c'est assez normal et moi, je le déplore beaucoup et je rêve vraiment qu'un jour ça change. Mais en tout cas, c'est vraiment deux maladies qui sont absolument, qui n'ont vraiment rien à voir l'une avec l'autre, si ce n'est que, y a certains symptômes, certaines manifestations en fait, de ces deux pathologies qui sont communes. Mais voilà, c'est vraiment deux choses qui n'ont pas grand-chose à voir l'une avec l'autre. Donc, du coup, ça prête vraiment à confusion. Et comme aussi, au final, les diabétiques de type 1 sont très, très minoritaires par rapport aux diabétiques de type 2, comme aussi le diabète de type 2, bah, tend à exploser puisque c'est une maladie qui est beaucoup liée, bon, à l'hygiène de vie, etc., à l'alimentation. Qui va un petit peu en s'empirant, qui vont un peu en s'empirant, bah, du coup, on va finalement de plus en plus vers une proportion de diabétiques de type 1 qui est encore plus restreinte. Et donc, on va de plus en plus, je pense, disparaître dans l'esprit des gens comme une véritable distinction. Et donc, bon, voilà, c'est complètement normal que ça soit flou, mais j'espère que ça le sera de moins en moins et peut-être aussi qu'on pourra rétablir des appellations. En fait, c'est deux maladies qui ne devraient pas du tout porter le même nom.
D'accord, oui.
Voilà, tout ça crée beaucoup de confusion.
Je comprends. Oui, je comprends. J'ai appris des choses.
Puis moi aussi, tu vois, au final, en me penchant vraiment sur ces questions, aussi moi-même, tu vois, j'ai appris beaucoup de choses. Mais surtout quand c'est une pathologie qui est liée à notre système immunitaire, c'est hyper complexe et c'est hyper intéressant, du coup, tu vois, de se plonger dans tout ça. Et on découvre aussi de plus en plus de choses sur l'immunité et sur le fonctionnement de notre système immunitaire ben, au fil du temps. Et donc, du coup, on comprend de mieux en mieux, tu vois, certaines choses, que ce soit sur le diabète de type 1 ou sur tout un tas d'autres dysfonctionnements plus ou moins importants. Et ouais, du coup, ça permet de remettre en perspective plein de choses qu'on sait ou qu'on ne sait pas, qu'on croit comprendre. Et peut-être cet avantage d'apprendre à mieux connaître le fonctionnement de notre corps. Et bon, du coup, ça a aussi plein d'avantages si on l'applique après, tu vois, dans la vie quotidienne, quoi.
C'est sûr. Non, c'est chouette. C'est chouette. Et je pense que c'est aussi finalement l'objectif de ton podcast, de démystifier un peu la maladie, de démystifier un peu bah, voyager avec cette maladie notamment, enfin, de se dire que voilà, ça n'empêche pas de vivre. Et je pense que je vais apprendre aussi plein de choses en écoutant les autres épisodes.
Je suis ravie, en effet, si ben en plus ça peut t'intéresser toi ou d'autres personnes comme toi qui sont peut-être pas concernées directement, mais qui en effet, comme tu dis, peuvent apprendre des choses parce que c'est une maladie qui est très très centrale en fait, qui interagit avec vraiment beaucoup d'aspects de notre métabolisme et du coup, bah. En comprenant un peu mieux le fonctionnement de cette maladie, c'est vraiment ça va de pair avec le fait de mieux comprendre son corps d'une manière générale. Donc, bah, si ça peut apprendre des choses, c'est super. Et je voulais te demander au final, toi, qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvée chez Chapka? Est-ce que tu avais des affinités particulières avec l'environnement de l'assurance, peut-être de la santé ou autre d'une manière générale? Comment ça s'est passé pour toi?
Alors moi, quand j'ai terminé mes études, j'avais décidé que je voulais travailler dans le domaine du tourisme, dans le domaine du voyage. Donc j'ai un diplôme de marketing digital, donc je recherchais. Et c'est vrai que je suis énormément de blogueurs personnellement, et ils parlaient tous de Chapka. Donc c'est comme ça que j'ai connu l'entreprise. Et puis lorsque j'ai terminé mes études et que je cherchais un emploi, il se trouvait qu'ils recherchaient actuellement quelqu'un dans leur équipe. Donc, je les ai contactés, j'ai passé des entretiens et puis me voilà au sein de l'équipe. Et aujourd'hui, je suis trop contente parce que, ben, au travers de mon travail, je voyage tous les jours. Je rencontre des personnes extraordinaires qui ont vraiment enfin, des projets fous, des personnalités incroyables. Enfin, franchement, c'est aucun regret. Alors, certes, bien sûr, hein, je travaille dans une entreprise d'assurance, mais aujourd'hui, on parle avant tout voyage. Et c'est vrai que moi j'adore et je n'ai aucun regret.
Oui, c'est vrai que Chapka détonne beaucoup par rapport à d'autres compagnies d'assurance. En tout cas, dans la perception qu'on peut en avoir hein, vu de l'extérieur, je pense qu'il y a vraiment de gros efforts qui sont faits pour rendre ça simple, accessible, pour voilà, interagir de façon beaucoup plus directe avec le monde extérieur qui n'est pas le monde de l'assurance.
Exactement.
Et ouais.
Exactement. Et même notre service client, ils sont tous basés en France, dans nos bureaux. On travaille dans le même plateau. Ils parlent chacun plusieurs langues. C'est une équipe de jeunes. On est tous assez jeunes quand même dans l'équipe. Donc c'est aussi très appréciable. Et nous, sur les réseaux sociaux, ce qu'on essaye de faire, c'est de davantage miser sur l'inspiration voyage, de mettre en avant bah, des voyageurs qui ont fait des aventures très belles, de mettre en avant, bah, je ne sais pas, des idées pour son voyage, des idées de road trip, de travailler avec des blogueurs qui peuvent aussi nous créer du contenu. Donc voilà, on essaie vraiment, vraiment, comme tu le disais, de montrer que c'est très simple. Si on a la moindre question, nous, on est là pour y répondre et c'est avec grand plaisir d'ailleurs. Et que toute la team, enfin, on est une team de voyageurs, c'est-à-dire qu'on a tous, nous aussi, vécu certaines expériences à l'étranger. Donc, ben parfois, les échanges vont même au-delà de la simple question, mais voilà, c'est quand même très agréable, ben de travailler dans cette team et de répondre aussi aux questions des voyageurs parce que vous avez tous des projets superbes.
Par rapport justement au parcours, aux inspirations et de pouvoir s'inspirer d'autres personnes qui sont peut-être nous il y a quelques années et qui du coup ont réussi à faire des choses dont on rêve un petit peu, mais peut-être qu'on n'ose pas forcément encore mettre en place. Et puis il y a la deuxième chose qui est de s'enlever de la tête l'idée que certaines choses sont compliquées. C'est voilà, c'est un mécanisme, je pense, de protection, peut-être parfois de procrastination. Bon, il y a plein de raisons hein, à
Oui.
ça. En tout cas, c'est vraiment l'une des raisons qui m'ont poussée à créer Happy Diabetes. Au final, c'est je me rappelle très bien de ce moment. En fait, quand on est diabétique de type 1, et je pense que ça doit être le cas dans d'autres pathologies, parfois on peut être amené à passer bon, une journée ou moi dans mon cas de figure c'était une semaine à l'hôpital pour remettre certaines choses à plat, faire certains tests, réactualiser nos connaissances, voilà, ce genre de choses, et aussi passer du temps avec d'autres personnes qui sont aussi diabétiques de type 1 parce que chacun bah, en fait gère certaines choses différemment, donc c'est aussi intéressant de se dire bah voilà, pour échanger des bonnes pratiques, de se dire bon je sais pas toi quand tu
Oui.
fais tel sport comment tu te gères, ce genre de choses. Et en fait, à la fin de cette semaine-là, moi, le 7 ou 10 jours plus tard, je sais plus, je partais pour le Myanmar, donc la Birmanie, avec un aller simple, avec mon petit, enfin mon grand sac à dos. Et
Génial.
ouais, c'était, enfin du coup, j'avais réussi à, voilà, à peu près caler ça dans mon programme juste avant de partir, donc c'était vraiment, vraiment chouette. Et donc, en fait, à la fin de cette semaine, on a fait un tour de table en se disant, bon, ben voilà, bon, plus ou moins, qu'est-ce qu'on retient de cette semaine, qu'est-ce qu'on va faire ensuite, etc. Bon, et donc, ben, quand vient mon tour, donc j'explique ce qui m'attend pour la suite. Et en fait, globalement, les réactions des autres personnes autour de la table, c'était plutôt de se dire, waouh, ben moi, je pourrais jamais faire ça. Et alors, je pense qu'on a tous des croyances limitantes au final, hein, qu'on ait une maladie ou pas. Il y a plein de raisons qui sont bonnes pour pouvoir se dire non, ça, c'est pas pour moi. Mais en l'occurrence, là, ce que je trouvais intéressant, c'est que je sentais qu'il y avait une envie de dire ben non, je peux pas parce que je suis diabétique. Mais bon, comme moi, je l'étais aussi, du coup, ça fonctionnait pas. Et j'ai commencé à essayer un petit peu de comprendre mais pourquoi tu penses que tu peux pas le faire. Et bon, c'était pas forcément le lieu ni le moment, etc. Et je pense que c'est des conversations, des échanges qui méritent d'être creusés pour dépasser ces croyances limitantes-là. Mais en tout cas, voilà, le fait de pouvoir se dire non, c'est pas si compliqué, et oui, c'est faisable pour des diabétiques ou pour, par exemple, je sais pas si tu connais cette histoire. Moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée aussi à partir. Je me souviens plus comment elle s'appelle. C'est une jeune fille qui a écrit un livre qui s'appelle Sépare Héros. En fait, c'est une jeune fille qui était en école de commerce et qui en première année d'école de commerce a été diagnostiquée avec un début de sclérose en plaques.
Ok.
Et c'était une fille hyper sportive qui était dans le bureau des sports de son école, etc. Bon. Bref, ça a été un vrai choc pour elle. Mais bon, je pense que ça l'est pour tout le monde, mais en tout cas, c'est ouais, ce qu'elle explique dans son livre, c'est vraiment arrivé du jour au lendemain. Et en conséquence de sa maladie, on lui conseillait de limiter ses efforts physiques, évidemment de ne pas voyager parce que, bon, je ne suis pas experte en sclérose en plaques, mais visiblement, bon, ça fonctionne par poussée. Donc, lorsque ça se déclenche, il faut qu'on puisse réagir d'une certaine façon, etc. Et en fait, elle, ça lui a... bon, évidemment, ça a déclenché beaucoup de questionnements, beaucoup de frustrations, beaucoup de etc., etc. Mais en fait, elle a décidé de partir voyager un an. Donc elle est partie en Mongolie, au Myanmar aussi, et dans un troisième pays, je me souviens plus lequel. Bref, et elle a écrit un livre suite à ça, et moi ça m'a vraiment beaucoup inspirée, parce que bon, bah voilà, elle a pris des risques aussi en partant, alors qu'elle a évidemment anticipé, contrôlé, mesuré, etc., etc. Et moi, ça a été mon cas aussi. Mais tu vois, de se dire bon, il n'y a pas de raison que ça soit pas possible, et surtout c'est pas, voilà, c'est ni si difficile ni impossible en tous les cas de voyager. Il faut juste, je pense, bien s'organiser, anticiper, et aussi avoir de quoi être aidé et être accompagné en cas de pépin. Et du coup, ce qui
oui,
voilà, reboucle aussi le fait de,
en fait, parfois il suffit simplement d'avoir un petit déclic de on n'ose pas parce que voilà, on a des contraintes perso, mais tout le monde a des contraintes perso, et parfois on peut regarder un film, lire un livre, comme tu dis, et voir des gens qui ont eu un certain déclic, et puis nous le donner à nous aussi, et se dire, OK, eux, ils l'ont fait, alors pourquoi pas moi? Et ouais, c'est... Oui, il suffit d'avoir le déclic, et nous aussi, on produit des films avec des partenaires, et l'idée, c'est justement ça. C'est de dire aux voyageurs, regardez le film, et puis dans deux mois, vous serez partis, parce que voilà, on va peut-être vous donner le déclic et l'envie de tout quitter pour vivre cette aventure incroyable qui est le voyage.
Si quelqu'un nous écoute et se dit qu'il a cette sorte de petite étincelle ou de petites vibrations à l'idée de voyager, mais qui n'ose pas, etc., bon, ça vaut le coup de regarder les petits films que vous produisez. On peut les trouver comment, via vos réseaux, via...
Sur notre chaîne YouTube, ouais, hyper simple. C'est une série qui s'appelle Génération. Le dernier, c'est Génération Tour du Monde. Et en fait, c'est simplement des voyageurs qu'on a suivi en voyage et qui, pardon, qui racontent leur déclic à eux, qui montrent un peu leur voyage. Il y a beaucoup d'émotions et franchement, ça donne envie de partir.
Bon, ben top. Et toi, alors, c'est quoi ta prochaine destination? Ça sera quoi?
Alors, la prochaine destination, ce sera sans doute en Europe. Les contraintes étant encore un petit peu compliquées. Et j'ai bon espoir de partir découvrir l'Amérique du Sud. En 2023, donc mine de rien, ça va arriver vite.
Oui.
Donc voilà, j'espère avoir l'opportunité de partir faire ce voyage de plusieurs mois en Amérique du Sud.
Bon, bah, écoute, je te le souhaite aussi, et aussi si tu peux le faire, ça veut dire que le voyage est de nouveau possible pour tout le monde. Donc je le souhaite, voilà, d'autant plus.
On croise les doigts.
Je te remercie vraiment encore beaucoup d'avoir pris le temps d'avoir cet échange aujourd'hui.
C'est avec plaisir, je suis ravie d'avoir échangé avec toi, Et vraiment, la seule chose que je peux rajouter, c'est que si vous avez n'importe quelle question sur l'assurance voyage, eh ben, appelez-nous. Notre équipe est là pour vous répondre. Et voilà, vraiment, n'hésitez pas. On est vraiment ravis d'échanger avec vous et de vous dire ce qui est couvert et ce qui ne l'est pas. Donc, c'est, voilà, c'est très important. Et n'oubliez pas de budgétiser l'assurance voyage dans votre projet de voyage, justement.
Ok, super. Bah, écoute, merci encore Aurélie et puis peut-être à une prochaine fois.
Merci beaucoup, beaucoup. À bientôt.
Salut. Si vous voulez découvrir ces outils, broken parts of broken